I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis à 19h sur Radio G. Alors ce soir, comme tous les mercredis, on va parler de cinéma, on va parler de BD, de livres, et puis on va écouter de la bonne musique. Ce soir, une découverte de la programmation du Hellfest, puisque la programmation est sortie la semaine dernière. Donc on va écouter pas mal de groupes qui seront présents au Hellfest en juin 2020 à Clisson. Mais avant cela, on va démarrer l'émission avec la demande d'un auditeur. On va écouter Qui qu'est ça avec 4 millions. Vous êtes bien sur Radio G, c'est Bande Geek Mafia, 101.5.
Qui qu'est ça, nouveau hippie gang?
Mets-moi 4 millions d'euros dans le sac, puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac, puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop,
yeah. Nouveau hippie gang, je veux un paquet de fric, pas de carré VIP, je veux me barrer vite. Mon album c'est l'apothéose, tu l'apprécies. Mon album c'est l'apothéose dans le paquet de frites. Tous les gens blindés que je connais me paraissent tristes, donc je veux pas être riche, riche, solo. J'ai rien faire à part écrire, à part être piche. Fais mon stream que c'est taré, mais c'est taré triche. Copie nous, t'en as marre d'être nul. Si je m'écoutais, je ferais que parler de cul. Bientôt je vais faire des persis pleins et je parie que c'est Barry qui va garer le bus. Oh merde, encore un son ego trip. Je suis certainement trop émotif. J'ai jamais su comment il fallait parler aux filles. Ado, je me faisais que par des ego trip.
Sur plage 80, bientôt je vais rentrer. J'ai mis du temps vu que le bateau tanguait. On me demande si ce que je dis est complètement vrai. Je crois que c'est le truc le plus con qu'on m'ait demandé. Ok s'il te plaît, mets-moi 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Hop.
J'ai appris via des gros types sur des faux sites et des gossips que j'ai grossi. Ok, jamais je négocie. En concert, je m'égosie avec Ogozi. Putain, je m'applique sur chaque couplet. Je mets ma vie sur disque. Mets-moi 10 sur 10, je vais pas me louper. J'arrive comme une petite surprise. Je vais éclairer ta vie comme une bougie. Te faire voyager comme un Bucci. J'ai bien réfléchi et je sais enfin pourquoi j'ai dit oui. Parce que oui, pas ni Pucci. Non, je ne kiffe pas tes Gucci. Chouci, j'ai nouveau hippie gang, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai amené ma paire dans une foule qui bouge. Je graille la concu comme une cookie d'eau.
S'il te plaît, mets-moi 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord, les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Ah, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord, les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Ah, je vais m'exiler enfin si j'ai de la chance. D'abord je dois finir bientôt la fin de la chanson. Je vais retirer tous mes billets de la banque. Si j'étais comme eux, je le vivrais comme une sanction.
Et j'aime pas les sanctions, je les laisse aller dans le fond. C'est très carré, chèque, j'arrêterai juste avant de m'égarer dans le son. Je me sens tout le temps différent d'eux. De toute façon quand t'es comme eux dans la vie c'est dangereux. La concu s'agite dans tous les sens, comme si je venais juste d'arriver dans le jeu.
Mets-moi 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Ah, coucou les gars, bientôt 4 millions d'euros dans le sac. Puis j'émigre dans le nord. Les nouveaux hippies à mes décos, paie-moi content, paie-moi cash. Excuse-moi si je chante faux, si je chante fort, mais je crois que les gens m'entendent. Ah,
Voilà, c'était Kikessa. Kikessa avec 4 millions dans Band Geek Mafia sur Radio G. Alors tout de suite, on va parler de cinéma. C'est la chronique ciné. Je vais vous parler ce soir de deux films, Les Misérables et The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese. Voilà pour moi maintenant, c'est parti. Alors, Les Misérables de Lajli, hein, pour commencer, c'est assez rare finalement d'avoir un film qui avec de la mesure et de la nuance pour traiter d'un sujet explosif, hein, et c'est encore plus rare quand un film épique en résulte, dont chaque minute captive. Voilà le prodige qu'offre aujourd'hui Les Misérables, où une cité de Montfermeil à l'est de Paris devient le condensé de toutes les tensions sociales, et puis une poudrière, sans qu'on passe jamais par les codes et les caricatures du cinéma dit « de banlieue ». En fait, au départ, ça, c'est l'histoire d'un lionceau qui est volé dans un cirque tenu par des gitans. On est au lendemain de la victoire estivale des Bleus à la Coupe du Monde de foot. Dans un climat supposé adouci par cet événement, en fait, les températures grimpent, les esprits s'échauffent hein, dans la France d'aujourd'hui. D'abord, la colère des gitans, qui est dans un premier temps presque théâtrale. Et puis, on voit divers groupes qui peuplent la cité des Bosquets. Il y a les musulmans radicaux, les échoppes communautaires, le faux maire, un caïd en chef portant un maillot estampillé « le maire ». Il y a le verbe tonitruant et c'est un interlocuteur régulier de la police locale. Et puis il y a aussi les faux repentis sortis de prison et Saint-Jean à l'exemplarité, la bande des enfants, les microbes aux origines maliennes pour la plupart. Donc voilà, on est à la hauteur de vue des personnages et le réalisateur Lajli, c'est un fils de ce quartier. Et on comprend d'emblée qu'il fait des choix. Il fait le choix d'endosser le regard d'un flic, joué par Damien Bonnard, nouvel arrivant à la brigade anticriminalité. Et pour le jeune révolté des Bosquets que fut le cinéaste, la police c'était l'ennemi. Elle abusait de son pouvoir. Mais cette fois-ci, il l'accompagne avec une certaine empathie, il accompagne la patrouille, dans des interventions de la brigade. Ça apporte un équilibre rare entre les forces en présence et ça restera l'un des grands atouts du film. Autre signal fort, les trois flics de cette brigade que l'on suit dépendent hiérarchiquement d'une femme, Jeanne Balibar, qui est exceptionnelle, dans une seule et longue scène de commissariat située au début du film. Elle incarne une autorité réfléchie, calme, non dénuée d'humour et de charme. Après cela, les démonstrations de force des messieurs sur le terrain ne sonnent plus de la même manière, en fait. Lajli esquisse donc un au-delà du virilisme, si souvent relayé à l'écran, dans les polars, dans les films d'Olivier Marchal. Hein, le nouveau venu, là, il déplore plutôt chez l'un de ses collègues en place depuis longtemps, le sensationnel Alexis Mananti, hein, également co-scénariste, il déplore son attitude. Alors, les trois policiers habitent le même quartier que ceux qu'ils surveillent, en fait. Ils se retrouvent le soir dans les mêmes intérieurs, sans aucun luxe. Donc ce ne sont pas des salauds ni des modèles de vertu, ils ne tombent jamais d'accord entre eux sur les modes d'intervention. C'est la bavure de l'un d'eux, un tir de flashball ravageur sur le visage d'un enfant, dans le cadre donc de l'enquête sur le vol du lionceau, qui provoquera l'engrenage de la violence. Donc le cinéaste est vraiment à hauteur de vue, c'est un enfant de la cité, voilà, il enregistre la terrible bavure, mais il restitue surtout la guerre des images qui est devenue le quotidien des policiers. Tout le monde filme. La vidéo sert d'arme de défense, de riposte, de chantage, de négociation. Ici, après le geste fatal, elle déclenche une traque et un réflexe corporatif de la brigade. Les valeurs s'inversent d'une manière alarmante. Le jeune blessé compte moins que les images de l'accident fatal à récupérer à tout prix. Donc Victor Hugo, lui, rédigea Les Misérables hein, dans cette vie de Montfermeil. Une scène le rappelle avec humour. Et le récit distille des allusions au roman, à commencer par son personnage de Gavroche noir, tombé par terre après l'impact du flashball, puis voué à la révolte. Mais ce titre s'impose encore par sa pertinence pour évoquer un monde situé du mauvais côté de toutes les inégalités sociales, un monde abandonné à ses expédients, à ses derniers retranchements, c'est-à-dire la drogue et son commerce, l'islamisme, un monde que policiers et émeutiers partagent finalement. Lajli montre leur face-à-face devenu incendiaire, terrifiant, mais choisit en dernier geste sublime de le suspendre. Le pire peut attendre, une chance infime demeure, l'énergie que libère ce grand film ne restera pas que celle du désespoir. Voilà, donc je ne peux que vous pousser à aller voir ce film, Les Misérables de Lajli. Donc c'est l'histoire de policiers qui patrouillent voilà, dans ce quartier des Bosquets. C'est vraiment fascinant, voilà. Alors, rien à voir et en même temps, il y a quand même un lien, c'est le dernier Scorsese, film américain qui n'est pas sorti au cinéma, mais qui est sorti sur la plateforme NX, c'est The Irishman, le dernier Scorsese, donc qui s'inspire de la vie d'un vétéran recruté par la mafia, qui est incarné par Robert De Niro, mais rajeuni dans le film. Le cinéaste évoque pour nous une ample méditation sur l'amitié, la trahison, la vieillesse, la sienne d'ailleurs, et celle du cinéma. Alors quand je dis ample méditation, c'est parce que le film dure plus de 3 heures, donc c'est une saga. Alors, c'est les retrouvailles, on va dire, entre Martin Scorsese et son acteur fétiche, Robert De Niro. C'était attendu depuis Casino, il y a 24 ans. Alors c'est finalement presque anecdotique au vu de l'ambition qui anime les 3h30 de The Irishman. C'est sorti donc le 27 novembre. Et c'est une saga funèbre, voilà, qui narre l'histoire véridique de Frank Sheeran, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui est devenu le bras droit de la mafia et le témoin des événements les plus traumatisants de l'histoire des États-Unis à la fin du XXe siècle. Donc l'auteur des Affranchis s'offre une sorte de dernier tour de piste en convoquant d'autres vieilles connaissances, alors Joe Pesci, Harvey Keitel, et puis en travaillant enfin avec Al Pacino et en développant les thèmes de prédilection qui énervent sa filmographie, la loyauté, la trahison, la rédemption bien sûr, avec un supplément d'âme nostalgique et touchant, une interrogation sur la vieillesse et l'illusion de défier le temps que l'on ne peut s'empêcher d'associer à Scorsese lui-même et à sa troupe. Donc le maître... Dans ses choix et ses combats, il ne cesse de se poser la question aussi, où va le cinéma ? Voilà. Donc en fait, le Robert De Niro, on sent qu'il a ressenti un lien très fort avec ce personnage. Voilà. C'est lui qui a proposé d'ailleurs le projet à Scorsese. Et Scorsese, il avait peur de se répéter. Encore un film sur la mafia, il en a fait beaucoup. Mais le livre dont est inspiré le film, il présente des affaires qui n'avaient jamais vraiment été résolues, comme la disparition de Jimmy Hoffa, c'est l'ancien patron tout puissant du syndicat des camionneurs, et l'assassinat du président Kennedy. Et donc c'est devenu quelque chose qui a lié, on va dire, Scorsese et De Niro. Et alors le film, lui, revêt un caractère assez funèbre, c'est-à-dire que le rythme est très zen, différent des autres œuvres sur la mafia. C'est un croisement entre un film sur le Dalai Lama et les Affranchis, quoi. En gros, ces hommes qui ont vraiment existé, ils vivent leur vie comme une fiction. Sheeran, par exemple, il s'identifiait beaucoup à Marlon Brando. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est fasciné et donc il est fascinant. Voilà. Et puis grâce aux effets spéciaux de Irishman, les acteurs retrouvent le visage de leur jeunesse. Ils ressemblent à ceux qu'ils étaient dans les anciens films de Scorsese. Donc c'est une manière nostalgique de défier le temps, comme dans le portrait de Dorian Gray. Voilà, c'est une réflexion sur la vieillesse. Et puis le cinéma, il a quand même une vertu cathartique qui permet de purger nos pulsions. Ça, c'est vraiment typique des films de Scorsese. D'ailleurs, c'est très judéo-chrétien. Et en fait, faire un film pour Netflix, c'est un refuge un peu pour lui parce que finalement, il n'a pas réussi à obtenir des fonds pour réaliser son film et pour le sortir au cinéma. Donc Hollywood s'intéresse plus aux films de super-héros, clairement. Et donc voilà, il s'est rabattu. Et sur Netflix, il lui a donné les moyens de faire ce film incroyable. Donc voilà, donc allez voir The Irishman, c'est sorti le 24 novembre sur la plateforme NX, avec Robert De Niro en vétéran dirigé par Scorsese, voilà, et puis de grands acteurs comme Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel. Voilà. Donc deux films vraiment très différents et en même temps qui ont des liens, c'est Les Misérables de Ledley et The Irishman de Martin Scorsese. Alors on commence à découvrir la programmation du futur Hellfest avec les Deftones qui seront en tête d'affiche le vendredi. On écoute tout de suite Swerve City dans Band Geek Mafia sur Radio G. Distant voices. That's C'était Deftones avec Swerve City dans Band Geek Mafia.
Quand tu dons dans ton panier du fromage, quand tu dons dans ton panier du fromage de chez Morel.
Alors j'emprunte le générique de Seb pour vous parler bande dessinée. Je vais vous parler d'un manga et d'un comics ce soir. Et puis c'est une idée cadeau pour Noël, puisque Noël approche, vous le savez. Et on n'a pas toujours d'idée. Alors je vous propose d'avoir un comics. C'est un comics qui s'appelle Brat Pack de Rick Veitch. Alors on est à Macropolis, dans une mégapole industrieuse. Il y a la loi et l'ordre qui règnent depuis des lustres, grâce à un carteron de super-héros vieillissant. Et pour se faire seconder dans leurs tâches, Midnight Mink, Judge Jury, King Rad et Moon Goddess peuvent compter sur leurs sidekicks, c'est-à-dire des jeunes assistants dévoués corps et âme. Mais lorsque ces derniers sont assassinés par l'infâme Docteur Blasphémie, se pose la question de leur trouver des remplaçants. Pour les nouvelles recrues, débute alors un douloureux apprentissage, parce que ces recrues sont avides d'exploits, de gloire évidemment, mais l'apprentissage est douloureux. Leur rêve de gosse se transforme rapidement en cauchemar. Alors, l'auteur est contemporain et compagnon de route d'Alan Moore, avec lequel il a notamment signé Miracle Man 1963 et plusieurs épisodes mémorables de La Créature des Marais. Alors, Rick Veitch, c'est un des jeunes énervés qui ont décapé l'industrie des comics américains à la fin des années 80, dénonçant l'hypocrisie, le cynisme et le dogmatisme des géants du secteur, Marvel et DC Comics. Veitch et ses acolytes, anglais ou américains, n'ont pas fait dans la dentelle. Écrit et réalisé et dessiné en 1990, Brat Pack est une fable cruelle. Elle épingle les rapports particuliers qui, de Batman à Robin, de Superman à Jimmy Olsen, ont uni pendant des décennies les super-héros à leurs jeunes compagnons. Ici, pas de camaraderie de façade, mais des relations tordues, exclusives, parfois quasi sadomasochistes, où les apprentis servent de souffre-douleur à des justifiés aigris, décérébrés, libidineux, voire carrément psychopathes. Une charge qui, sans avoir la portée philosophique des Watchmen, bien sûr, ou de The Dark Knight, n'en est pas moins réussie et salutaire. L'humour très noir de Veitch, son dessin inspiré par celui de Richard Corben et la virtuosité de sa mise en scène font toujours mouche. C'est à découvrir d'urgence, vraiment. Ça s'appelle Brat Pack. C'est un comics de Rick Veitch. C'est traduit de l'anglais par Virgile Iscan. C'est aux éditions Label Delirium. Ça fait 248 pages et ça coûte 29 €. Voilà, un joli cadeau de Noël. Autre cadeau de Noël possible, cette fois-ci un manga. C'est un manga qui s'appelle Aposims, la planète des marionnettes, volume 1, de Tsutomu Nihei. Alors Tsutomu Nihei, c'est un créateur d'univers. Alors, c'est pas évident au pays du manga où l'on préfère les raconteurs d'histoires, sauf que l'obsession du maître japonais de la science-fiction pour les mondes flottants, les humains modifiés, la robotique et les ruines interstellaires est en soi une matrice narrative. Ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait les autres. Ces intrigues se déroulent toujours loin de la Terre, en apesanteur. Dans d'immenses vaisseaux spatiaux, tout simplement, ou des bases en orbite, où survivent, tant bien que mal, des restes d'humanité. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il y a des restes d'humanité. Donc ainsi, Aposims, A-P-O-S-I-M-Z, un astre artificiel à la surface duquel l'Empire règne du main de fer, tandis que, loin dans les profondeurs du monde souterrain, le pouvoir appartient au contrôle central. Entre ces puissances en conflit, quelques bandes éparses de résistants, pourchassées par des marionnettes dotées de super-pouvoirs. Un univers passablement pessimiste et écrasant, indigne des romans cyberpunk de William Gibson ou de Bruce Sterling, et proche de ce que Mebius et Druillet faisaient dans Metal Hurlant, une référence souvent dégainée, mais qui, dans le cas de Nihei, fait vraiment sens, tant son plaisir à dessiner des mondes verticaux, des structures enchevêtrées, d'impossibles perspectives et palpables. C'est un virtuose du cadrage, les récits sans parole, c'est un ancien architecte évidemment, qui a cependant tempéré la radicalité charbonneuse de ses premiers opus, qui s'appelait Blame ou Noise, pour développer dans Aposims la tendance amorcée avec Night of Sidonia, c'est-à-dire un trait épuré, la prééminence des blancs et surtout un louable effort pour rendre la narration plus fluide. Donc que les amateurs se rassurent, le fond lui reste d'une indicible noirceur. Ça s'appelle Aposims, la planète des marionnettes. C'est un manga de Tsutomu Nihei, c'est ça. Traduit du japonais par Johan Leclerc aux éditions Glénat, 180 pages, 7,60 €. Voilà, des petits cadeaux de Noël possibles si vous aimez les comics et les mangas. Alors on continue à explorer la programmation du prochain Hellfest avec Faith No More, évidemment, qui sera en tête d'affiche le samedi. Et on va écouter Separation Anxiety. C'est dans Bandgeek Mafia sur Radio G. C'était Face No More avec Separation Anxiety dans Bandgeek Mafia.
Creature Shock Radio FM.
Alors tout de suite, les livres. Les livres, bien sûr, pour faire des cadeaux, mais aussi pour se faire plaisir. Alors d'abord, Les Testaments, un roman de Margaret Atwood. Margaret Atwood, vous la connaissez, puisqu'elle a écrit La Servante Écarlate. Et que c'est la suite, finalement, particulièrement attendue de La Servante Écarlate. Une dystopie troublante qui atteint brillamment son but, c'est vraiment captivant. George Orwell, le grand George Orwell, a-t-elle raconté, regardait par-dessus son épaule, tandis qu'en 1984, elle entreprenait d'écrire ce roman, La Servante Écarlate, qui allait faire d'elle, quelques 30 ans plus tard, une romancière mondialement adulée. Orwell n'est pas la seule référence dont Margaret Atwood est usée. Dans un texte écrit il y a 2 ans pour le New York Times, l'auteure canadienne citait notamment la Bible et les contes de Canterbury, de Saucer, parmi les liens qui nouent sa sombre dystopie à l'histoire littéraire. pointant de son geste romanesque une autre assise, à savoir la réalité. Je voulais, dit-elle, créer un jardin imaginaire, mais que les crapauds y soient bien réels. L'une de mes règles était de ne pas mettre dans le livre des événements qui n'aient pas déjà eu lieu dans ce que James Joyce appelait le cauchemar de l'histoire. Ni aucune technologie qui ne soit déjà disponible. Pas de gadgets, de lois, d'atrocités imaginaires. Dieu est dans les détails, dit-on, le diable aussi. Alors de fait, des échos des totalitarismes du XXe siècle et des dictatures les plus brutales de notre temps se font entendre très directement dans les détails de l'histoire de la théocratie machiste et meurtrière de Gilead, devenue Galaad dans cette traduction, telle qu'elle nous est contée et décrite dans les Testaments, suite très attendue et réussie de la Servante écarlate. L'action se tient une quinzaine d'années après la révolte et la disparition de la Servante de Fred et passe cette fois par des témoignages de Tante Lydia, une apparatchik du régime, et de deux adolescentes dont l'origine et les véritables identités seront peu à peu révélées. Ce n'est pourtant pas ce faux suspense que le roman, ce n'est pas dans ce faux suspense que le roman puise sa force d'attraction, mais bel et bien à cet effet de réel qu'Atwood sait si adroitement diffuser et au thème éternel de l'héroïsme et de la servitude dont elle irrigue cette prophétie crépusculaire. Voilà, ça s'appelle Les Testaments de Margaret Atwood, c'est un roman traduit de l'anglais, enfin du Canada, par Michel Albaret-Mast aux éditions Robert Laffont. Ça fait 552 pages et ça coûte 22,90 €. C'est sorti au mois d'octobre. Courez-y pour le lire si vous avez aimé La Servante écarlate et pour l'offrir aussi. Alors, autre roman, cette fois-ci un roman noir. Enfin, Les Testaments, c'est assez noir, mais là, roman noir dans le sens de polar, c'est Le karaté est un état d'esprit, hein, du grand auteur américain Harry Cruz. Alors, Harry Cruz qui nous a quittés en 2012, hein, et Harry Cruz, c'est un auteur qui a de la tendresse pour les pires gars de la Terre, les dingues qui bouffent leur voiture dans le livre Car, les malsains qui dressent des reptiles dans La foire aux serpents, les freaks, les perdants, les mal élevés. Harry Cruz, c'est un écrivain culte. Il raconte une Amérique sans rêve, où les fêtes de village finissent toujours mal, où les jeunes cherchent du travail sur les routes de la misère avant de mourir dans des rizières de Corée ou du Vietnam. Et donc ce roman, Le karaté est un état d'esprit, c'est un inédit flamboyant. C'est son quatrième roman paru en 1971 aux États-Unis, presque une œuvre de jeunesse, mais déjà portée par ses obsessions futures, les corps torturés, les communautés désastreuses et les désirs de pureté. Ici, le sport se pratique dans une piscine vide pendant un été caniculaire. John Kamen, un routard pas bégueule, en fait les frais. Ébahi par Gay, une karatéka de haut niveau pourvue d'un corps céleste, il décide d'accompagner cette beauté fatale en prêtant allégeance à sa tribu de combattants sectaires. Les amateurs de baston seront aux anges, si vous aimez Fight Club. Les autres retrouveront dans ce livre ironique et mordant l'écriture secouée de Cruz, sa fantaisie brutale, les dialogues sulfureux et son très mauvais esprit. Un roman parfait pour l'été, hein, mais aussi pour l'hiver, hein, puisqu'il y a du trash et du sexe, de la philosophie et cette pincée de poésie fiévreuse qui met de bonne humeur, hein, quand il fait sombre et qu'il fait froid. Karaté is a thing of the spirit, hein, traduit par Le karaté est un état d'esprit. C'est traduit de l'anglais américain par Patrick Reynal, hein, l'auteur de Polar. Aux éditions Sonatine, ça fait 230 pages et ça coûte 20 €. Voilà, je vous rappelle les titres. Les Testaments de Margaret Atwood et Le karaté est un état d'esprit de Harry Cruz. Voilà. Un peu de musique toujours. Et toujours au Hellfest, le samedi, nous pourrons retrouver Infectious Grooves. Alors, vous voyez, on est très parti dans les années 90, puisque les Deftones, Faith No More, Infectious Grooves, System of a Down, Korn, on est vraiment... C'est vraiment le Hellfest des années 90, là. Bon, il n'y aura pas que ça, bien sûr, mais les têtes d'affiche sont vraiment orientées. Ça fait plaisir. Infectious Grooves, c'est du funk metal, si on veut. Et là, j'avais envie de vous faire écouter une reprise de Led Zeppelin, un Immigrant Song, dans Band Geek Mafia, sur Radio G. In yours. Voilà, c'était Infectious Grooves avec The Immigrant Song dans Band Geek Mafia.
Ouh, oui.
Allez, je passe à la suite. Allez, tout de suite, c'est la suite. On va pas écouter les System of a Down tout de suite, hein, mais je vais vous parler de YouTube. C'est un petit teasing, c'est pour Adrien, je sais qu'il adore, c'est pour ça. Allez, tout de suite, la suite, c'est parti. Alors, les chaînes YouTube, on aime ça aussi dans Band Geek Mafia, forcément. Plusieurs chaînes ce soir, peut-être trois, tiens, puisqu'on a du temps. Je vais en profiter. Alors, la première, c'est l'instrumentarium de l'insolite. Alors, j'aime bien le titre, c'est pour ça que je vous en parle. Un jour, Laetitia Tison, qui est membre d'une troupe médiévale, acquiert un kemenche. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de kemenche, hein, c'est une sorte de violon de la mer Noire. Une autre fois, une amie lui offre une vieille clarinette. Et puis depuis, la jeune femme de 31 ans, devenue musicienne intermittente, a réuni dans son salon environ 70 pièces d'un autre temps. Et donc elle s'est dit pourquoi ne pas partager cette passion loufoque sur Internet. Sa chaîne, donc l'Instrumentarium de l'Insolite, a déjà convaincu plus de 13 000 abonnés. Elle ne voulait pas faire une énième chaîne sur l'histoire, explique-t-elle. Hein, elle se rêvait plutôt en luthière, voilà. Mais le métier nécessite une très longue formation. Donc elle va en fac de musicologie, où la joueuse d'alto regrette qu'on lui parle peu d'organologie, l'étude des instruments en fait. Qu'à cela ne tienne, elle s'attaque à cette matière complexe dans des vidéos, toutes vérifiées par des experts, donc la vieille, la roue, la cora, le ulusi, des objets au nom évocateur, qui donne envie de chausser des sabots pour danser la polka. Avec talent, Laetitia jongle entre les informations techniques et historiques, donc vous saurez tout sur le frottement des cordes, l'octobasse de plus de 3 mètres de haut, mais aussi la récupération de casques de soldats pour construire des caisses de résonance dans les tranchées. S'il ne fallait voir qu'une vidéo, pour conjurer le traumatisme de la flûte à bec à l'école, supprimée depuis 2008, je le rappelle, sa pastille sur cet instrument met en lumière des héros qui le maîtrisent, en fait, sans faire vriller les tympans. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, l'instrumentarium de l'insolite sur YouTube. Deuxième chaîne YouTube ce soir, Jeannot se livre. Alors Jeannot, en fait, c'est une étudiante en journalisme, mais qui est surtout férue de littérature. Elle s'appelle en fait Jeanne Seignolle. Elle a lancé il y a 2 ans une chaîne dédiée à sa passion, après avoir un temps écrit des chroniques littéraires pour le magazine L'Étudiant. Avec une idée bien précise, mettre un frein à l'élitisme et montrer quelqu'un de bon vivant parler de littérature. Jeannot se livre... était né. Alors Jeannot, c'est moi, dit-elle. Le personnage plein de gouailles, interprété par Jeanne, porte le surnom qu'elle a reçu dans sa plus tendre enfance et dessine une version exagérée d'elle-même. Certes, cette fervente lectrice fait la part belle à une littérature décomplexée, au rythme de ses propres passions. Dans l'univers booktube très codifié, j'avais envie de faire un pas de côté, assure la jeune femme de 23 ans. Sur sa chaîne, pas de critique de livres récents, mais plutôt des discussions à la bonne franquette. Comme si je parlais à ma famille ou mes amis, dit-elle. Chaque samedi, Jeannot décrypte un thème. Faut-il être torturé pour être un bon écrivain? Pourquoi ne lit-on que des classiques à l'école? Le format court se veut un premier pas vers une discussion qui se prolonge souvent dans des commentaires. S'il fallait ne voir qu'une seule vidéo, ce serait « J'ai lu le roman le plus vendu au monde ». Sous ce titre racoleur, on apprend que le roman en question n'est autre que Don Quichotte, qu'elle confectionne une compote de pommes ou s'applique de la crème sur le visage. Jeannot nous plonge dans son quotidien au rythme de sa lecture de Cervantes, une tranche de vie hors des sentiers battus, et c'est assez poilant. Voilà, Jeannot se livre, toujours sur YouTube. Et enfin, Swann Périssé. Elle est vidéaste, elle est productrice, humoriste, réalisatrice, mais... Où s'arrêtera Swann Périssé? La jeune femme gère avec succès une carrière dans le stand-up ainsi que l'animation de sa chaîne d'humour depuis 2014. La faute à son énergie, son sens aigu de l'autodérision, mais également à la force de travail de celle qui se décrit comme une bosseuse acharnée. Elle participe également depuis 2 ans au programme Creators for Change qui promeut le contenu de créateurs engagés. Alors le pitch. Avec Swann, place à la spontanéité. Sa chaîne YouTube s'apparente à un joyeux foutoir où l'on trouve de tout, du court-métrage de fiction au sketch humoristique féministe, des confidences, mais aussi des vidéos sur les expressions françaises, la délicieusement absurde « Comment les étrangers voient le français » et son plus gros carton avec 4 millions de vues. Ne vous fiez pas à cette apparente décontraction. Pour la vidéaste, le rire est une affaire sérieuse et l'humour un cheval de Troie, capable d'abaisser nos défenses pour mieux faire passer des messages. Et elle n'est pas la seule, son documentaire Mon tour du monde des blagues nous emmène aussi à la rencontre d'humoristes aux quatre coins du globe. S'il ne fallait voir qu'une vidéo, ce serait mon agression sexuelle. La vidéaste mobilise toute sa finesse d'écriture pour raconter avec humour le difficile quotidien des femmes dans la rue et le métro, véritable tour de force que d'arriver à faire rire d'un sujet aussi grave sans minimiser le traumatisme qu'il engendre. Voilà, donc je vous conseille trois chaînes ce soir, Swann Périssé, trois chaînes YouTube, hein, Jeannot ce livre, et enfin l'instrumentarium de l'insolite. Alors c'est parti pour System of a Down, qui sera au Hellfest le dimanche au mois de juin à Clisson. Chop Suey, c'est maintenant dans Bande Geek Mafia, sur Radio G. 101.5. System of a Down dans Bande Geek Mafia. C'est bon ça, ah oui, et les auditeurs nous disent, mais oui, un pogo, mais oui, ça va être terrible au Hellfest. C'est sûr. C'est l'heure de la série. Alors ce soir, des super-héros aux super défauts. La femme élastique dépressive, un cerveau enfermé dans un corps de robot. Les bras cassés de Doom Patrol font toute l'originalité de la série. Alors Doom Patrol, hein, c'est sur Sci-Fi. Ils sont partout, si vous voulez. Ils sont gentils ou méchants, venus d'ailleurs, ou génétiquement modifiés, en armure ou en collant. Les super-héros écrasent d'une main de fer la fiction américaine, grands et petits écrans confondus. Pour éviter l'overdose de blockbusters formatés, il existe une étrange série. Discrètement lancée l'hiver dernier outre-Atlantique, à la marge de l'armada DC Comics, Batman, Superman, Flash, etc., Doom Patrol. Cette adaptation des comics créée par Arnold Drake et Bob Haney dans les années 60 met en scène les aventures surprenantes, absurdes et émouvantes d'un groupe de héros malgré eux, rejetés par la société et mal dans leur peau. C'est une série de super-héros pour les gens qui en ont marre des super-héros en fait. C'est un drame punk rock qui veut vous coller des baffes et des coups de pompe dans le cœur sans jamais se retenir, résume son showrunner Jeremy Carver. S'il n'y a que de la baston qui vous intéresse, vous risquez d'être déçus en gros. Alors la Doom Patrol ressemble de loin aux X-Men, petit groupe de surhumains enfermés dans un manoir, paria, misanthrope, hanté par leur passé. Il y a Rita, une femme élastique dépressive, Cliff, un cerveau mélancolique enfermé dans le corps d'un robot qui jure comme un charretier. Il y a Kay, une schizophrène dotée de 64 personnalités, Larry, un grand brûlé radioactif, et Victor, un cyborg en pleine crise d'adolescence. Donc ils sont tous prisonniers de leur pouvoir et de leurs souvenirs. Leur combat le plus épique, c'est d'arriver à se lever le matin, en gros. Ça ne les intéresse pas de sauver le monde, pas plus que de faire équipe, en fait, pour protéger la veuve et l'orphelin, puisqu'ils n'ont confiance en personne, surtout pas en eux-mêmes. Quand leur père d'adoption, une sorte de professeur X, hein, aux intentions ambiguës, joué par Timothy Dalton d'ailleurs, lorsque leur père d'adoption est enlevé, ils se résignent à unir leurs forces. Jeremy Carver, le créateur de la version américaine de Being Human, série dont les héros étaient un vampire et un loup-garou, presque sans histoire, il aime chercher l'humanité des monstres en tout genre. Il ne s'agit pas de se demander ce qu'un être fantastique ferait, mais comment l'être banal qui se débat en lui gérerait la situation. Dans Doom Patrol, le fort intérieur s'impose devant la menace extérieure. Au point que certains épisodes se déroulent littéralement dans la tête des personnages. Chacun va apprendre à s'accepter, en même temps que l'on découvre leur vie passée dans de longs flashbacks. Cliff va reconnaître qu'il était moins humain dans sa peau d'homme, Larry vivre plus sereinement son homosexualité, Kay apprendre à faire cohabiter ses personnalités, etc. Les rebondissements sont bien souvent les reflets de leur progrès intime, en fait. Donc, le tour de force de Doom Patrol, c'est de ne jamais s'éloigner de ces héros qui nous ressemblent étrangement, tout en les propulsant dans un récit loufoque, narré par son grand méchant, Mr. Nobody, une sorte d'ombre indestructible créée par un savant fou nazi. La bande visite ainsi l'intérieur d'une boule à neige, une rue qui parle ou le ventre d'un âne. Autant de voyages abracadabrants, métaphoriques, mais jamais totalement explicités. L'époque n'est plus à l'explicitation, il faut se lâcher, faire confiance au public, hein, s'enthousiasme Jeremy Carver. Au pire, il n'y comprendra rien, mais il sentira un truc dingue qui est en train de se passer. Un peu comme le personnage le plus réussi de la série, c'est-à-dire Cliff, alias Robotman, complètement largué dans son corps mécanique, qui lâche toutes les deux minutes un « c'est quoi ce bordel ?» aussi hilarant que profondément émouvant. Voilà, donc je vous conseille Doom Patrol, c'est la première saison. Leur combat épique, c'est d'arriver à se lever le matin, et c'est vrai que c'est assez drôle. Si vous aimez les super-héros un peu déviants, avec plein de défauts, vous allez adorer Doom Patrol, voilà. Une super série, un peu originale. Alors évidemment, après System of a Down, on est obligé d'écouter Korn, puisqu'ils seront au Hellfest, au mois de juin, à Clisson. C'est parti, on va écouter Adidas, Commande Geek Mafia sur Radio G, sur 1.5.
Somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, 'cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Let's school and be the only way that I can truly be free. So I dream and struggle harder, 'cause it's so fun to see my face staring back at me. I don't know your fucking name, so what? Let's fuck. Fuck yeah.
C'était Korn avec Adidas dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Alors c'est vrai que c'est vraiment les années 90. Hein. On effectivement pourrait écouter Linkin Park ou Sum 41, ça serait bien. Allez, la suite.
Creature Shock Radio FM.
Alors oui, l'émission avance, hein, il est déjà moins 10. Évidemment, on reparlera du Hellfest, puisque Radio G est partenaire, et souvent, enfin partenaire, j'exagère, mais en tout cas convié au Hellfest, et fait toujours des chroniques et un petit live report hein, sur place, et puis des émissions spéciales avant et après le festival. Bon là, c'était vraiment pour vous présenter la programmation, une partie de la programmation, surtout les têtes d'affiche. On écoutera aussi Judas Priest pour se quitter. Évidemment, c'est très varié, il y a toutes sortes de styles de hard rock et de metal. Si vous n'y êtes jamais allé, essayez. Alors, les passes 3 jours sont tous vendus, mais vous aurez des places à la journée. Surtout là, ça nous rappelle tous notre jeunesse ou notre adolescence. Je rappelle hein, qu'en tête d'affiche, quand même, qu'on trouvera donc Korn, System of a Down, Infectious Roof, Faith No More, Deftones, et puis plein d'autres super groupes. Bien sûr, la semaine prochaine, vous retrouverez toute l'équipe. Moi, je ne serai pas présent, mais toute l'équipe sera là. On fait tout ça à tour de rôle. Et puis, le 18 surtout, le 18 décembre, pour la sortie de Star Wars au cinéma, de l'épisode 9, nous ferons une émission spéciale Star Wars dans Band Geek Mafia. Évidemment, on peut pas s'en passer, c'est impossible. Star Wars, c'est la vie. Alors, je voudrais faire un coucou à tous les auditeurs et toutes les auditrices, et puis saluer Anaïs, Héloïse, Adrien, Seb, Oliver Quiz, Tony, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, Florence, Paul, on vous aime. Et on va écouter Judas Priest. Ouais, je ne résiste pas tout de suite à écouter ça dans Band Geek Mafia. Sur Radio G.
Just till dawn.
C'était Judas Priest avec Firepower dans Bande Geek Mafia. Ah, et bien c'est l'heure de se quitter déjà. Eh oui.
Creature Shock Radio FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Voilà, c'était Bande Geek Mafia, restez à l'écoute de Radio G. Tout de suite, c'est Rudy's Back. On se retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe. Et puis, on se quitte avec un morceau qui va faire plaisir à tout le monde. The Offspring, à la semaine prochaine, salut!
You gotta keep them separated. Separated.
Hey!
The man you're disrespecting me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Separated.
Hey! Man, you're talking back to me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Hey!
Separated.
Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out.
Gotta keep them separated.
Hey!
Play now is one that we play made in the year of the 60s and name it Latin Ghost Care.